massive original in the mix. It could still original, it could still original. If you go out there, you better see, I'm the one that movie say, to some radio copy.
Il est très difficile pour des individus de dire autre chose que ce qui est dit.
Que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Si la tonalité du téléphone est de 440 Hz, c'est qu'il y a forcément un rapport avec le diapason des musiciens et les délibérations qui ont animé la communauté musicale au beau milieu du 19e siècle sur l'exacte hauteur qu'il s'agit de donner au diapason de référence. En France, c'est le 16 février 1859 que la hauteur musicale s'est trouvée fixée par décret. La nécessité de légiférer venait répondre à des plaintes d'entendre les orchestres jouer de plus en plus aigus pour briller, pendant que les chanteurs devaient s'égosiller pour arriver à s'accorder avec eux. Mais au-delà d'un confort de la voix ou de questions pragmatiques dans la pratique de la musique, la volonté de standardiser une hauteur de référence est petit à petit devenue une sorte de nécessité industrielle, pour ne pas dire un enjeu à savoir quelle serait la première puissance mondiale à imposer son diapason au reste du monde. Dans le livre Tuning the World, publié par les presses universitaires de Chicago, la chercheuse Fanny Grybinski a fait l'histoire de cet étalon 440 Hz et pu observer les différentes négociations entre la France, l'Allemagne, les États-Unis, mais aussi l'Angleterre à partir du moment où la BBC a imposé les Greenwich Pips pour donner une sorte de la entre toutes les horloges du monde. Pour Métaclassique, nous parcourons avec Fanny Grybinski les différents jalons de l'histoire de cette norme, des effets de standardisation qu'elle a occasionnés et de quelques événements sonores dont elle peut être l'origine. Bonjour Fanny Grybinski.
Bonjour.
On vient d'entendre un orchestre qui essaye de... Enfin, qui s'accorde, il ne fait pas que essayer. Quand vous entendez ce son-là, vous n'entendez pas quelque chose de si universel pour vous? C'est un construit, c'est le résultat d'une histoire, un orchestre en train de s'accorder.
Oui, alors je dois dire que c'est récent, là aussi c'est construit. J'ai longtemps écouté ces sons sans d'ailleurs y prêter trop d'attention, mais je pense que quand j'ai commencé à y prêter attention, je me suis dit que c'était un moment où on avait l'impression de se situer un peu en deçà de l'histoire de la musique. Enfin, on s'apprêtait à rentrer dans des styles, dans des époques de l'histoire de la musique. Et puis, en fait, on était déjà dans des débats très virulents sur ce qu'est la musique, ce qu'est le son, et des débats qui mettent en jeu des questions politiques, industrielles, très, très importantes.
C'est-à-dire que le son de l'orchestre qui s'accorde n'est pas dehors à la musique, il est déjà en plein dedans et surtout en plein dans l'histoire. Alors, si on cherche effectivement une espèce de date de naissance du diapason, il y en a plusieurs possibles. Si on parle juste de l'objet, ça nous remonte à John Shore, donc au tout début du XVIIIe siècle.
Oui, absolument. Alors l'objet, bon ça c'est une spécificité de la langue française et qu'il faut peut-être souligner d'emblée puisqu'on va parler de contextes nationaux et internationaux divers. Donc en français, effectivement, le mot diapason, il évoque à la fois une norme, et on y reviendra, j'y pense,
bien sûr,
je
ouais.
pense, et puis aussi donc un objet, cette sorte de fourchette qui est devenue de plus en plus faite d'acier au XIXe siècle, dont l'invention a été attribuée à John Shore en 1711.
Sachant que le mot diapason existait déjà, il désignait être au diapason, être en harmonie avec quelqu'un par exemple.
Oui, et puis ça désignait aussi l'étendue d'une voix. Donc ça, c'est des définitions donc, qui précèdent la détermination d'une norme universelle ou abstraite. Et c'est intéressant d'ailleurs parce qu'on voit vraiment qu'elle est inscrite dans les corps. Et donc cette norme, on va essayer de l'extraire des corps, l'abstraire des corps et puis ensuite la réintroduire dans ces corps musiciens. Donc il y a un trajet d'aller-retour comme ça. Mais en tout cas, oui, le mot français est important parce qu'il nous inscrit vraiment à la croisée de conceptions abstraites, mathématiques, physiques, etc. Et puis vraiment la matérialité de cette norme.
Alors, le devenir norme du diapason, c'est une affaire qui est d'abord française. On a plusieurs dates qui concourent, puisque Jacques Chaillet dit que l'invention du diapason, au sens du diapason normal, c'est 1859, puisqu'il y a une commission de normalisation à ce moment-là, mais c'est pas la première. Il y a eu des soucis d'uniformiser le diapason dès le début du 19e siècle.
Oui, alors on peut quand même placer la naissance de cette norme en France, ce qui n'est pas très étonnant, hein, puisque la France est vraiment le pays dans lequel se fabriquent pas mal de normes scientifiques et techniques au XIXe siècle.
À la suite de la Révolution, des débats sur le kilo, sur le mètre.
Absolument, et le système métrique, c'est à la fois, c'est un précédent historique, donc c'est pas seulement qu'on va, au long du XIXe siècle, partager un certain nombre de contextes qui ont permis l'émergence de cette norme, mais c'est aussi que cette norme constitue un précédent important. D'abord, le fait qu'un État ait réussi à produire quelque chose comme le mètre, c'est une chose qui crée un précédent dans l'histoire.
Et qui est vécue comme une réussite dans le monde entier ?
Alors, qui trouve un écho, donc la négociation d'un mètre à une échelle internationale, c'est une histoire qui se poursuit au XIXe siècle. En France, l'introduction de cette norme, elle pose toutes sortes de problèmes et elle ne se fait pas du jour au lendemain et elle crée dans une certaine mesure une démultiplication des normes en matière de poids et mesure. Mais en tout cas, oui, il y a un grand écho dans le monde occidental de la création de ce standard et on va identifier un peu la France et la France va aussi surtout s'emparer de cette image de un pays capable de normaliser, de standardiser.
Ça veut dire que, en effet, il y a une espèce de mode de l'étalon qui fait que quand on commence à dire oui, les chanteurs chantent de plus en plus aigus, et puis il y a une espèce de montée qui va être l'argument principal de la recherche d'une norme, c'est jamais qu'un argument pour satisfaire une volonté d'étalonner.
Alors non, disons que la manière dont j'ai essayé de penser la création de cette norme, c'est en essayant de pluraliser les points de vue sur ce standard. Ce standard, il est plusieurs choses, plusieurs groupes d'acteurs. Et encore aujourd'hui, c'est pour ça que j'en parle au présent, il y a toujours des débats et il y a toujours des points de vue sur le diapason qui sont très divers. De manière la plus flagrante peut-être, si on est un physicien ou si on est un musicien, on ne pense pas exactement de la même manière à ce qu'est même le son comme phénomène physique. Et donc, on voit se déployer des points de vue comme ça qui sont à la fois divers et puis parfois antagonistes les uns par rapport aux autres. Quand, par exemple, effectivement, vous évoquiez le cas des chanteurs. Quand des chanteurs, par exemple, se trouvent aux prises avec un diapason qu'ils trouvent trop élevé, ça, c'est quelque chose qu'ils ressentent vraiment dans leur corde vocale comme quelque chose de douloureux, de peut-être dangereux. Donc, on voit comme ça des intérêts qui s'inscrivent aussi différemment pour les acteurs selon qu'ils sont des praticiens de la musique, des fabricants d'instruments, des politiciens. Ça ne veut pas dire la même chose de se positionner par rapport à ce standard pour tous ces gens.
Oui, parce qu'on peut citer par exemple Caruso qui prenait l'air, je crois entendre encore, de Bizet un peu plus bas parce que sinon ça tirait trop sur sa voix et donc c'était même pas très beau, quoi. En 1834, il y avait déjà eu une espèce de volonté de normaliser à Stuttgart.
Oui, alors il y a un personnage intéressant puisque c'est Scheibler qui est un fabricant, enfin c'est un industriel de la soie, mais qui s'est passionné pour les questions de l'accord des instruments, qui a réalisé quelques mesures de l'accord des pianos autour de là où il se trouvait. Donc on a une proposition qui va trouver un écho parce que son travail est publié notamment en français. Enfin, il y a une diffusion de sa proposition à une échelle européenne. Scheibler, il s'est immédiatement confronté à la question de la mise en œuvre d'un standard abstrait, c'est-à-dire qu'il a essayé de mettre au point une technique et une technologie qui permettent un accord précis des pianos. Donc on est d'emblée avec Scheibler, c'est ça qui est intéressant, dans une question déjà très incarnée de ce que c'est normaliser l'accord.
Parce qu'il y a effectivement un enjeu à ce moment-là, à ce que tous les pianos d'un même pays soient accordés de la même façon.
Oui, alors je pense que donc il y a deux problématiques qui se croisent dans l'histoire de la standardisation du diapason. La première, vous l'avez évoquée, c'est l'idée que le diapason monte. Et ça pose problème à la fois, ça pose des problèmes, disons, physiologiques pour les chanteurs, pour un certain nombre d'instruments aussi, notamment des instruments qui sont hérités de périodes plus anciennes, accordés à des diapasons plus bas et puis qu'on doit un peu, sur lesquels on doit tirer un peu pour qu'ils produisent des sons plus aigus. Et ça, c'est une spécificité vraiment de l'histoire de la standardisation musicale. Et c'est pour ça que ça ouvre toutes sortes de questions qui n'ont pas été vraiment explorées par l'histoire des standards techniques et scientifiques. L'autre question qui est, plus banale, si on connaît un peu l'histoire des standards scientifiques et techniques, c'est l'idée d'uniformiser des espaces. Donc de créer, par exemple, des marchés commerciaux qui soient intégrés. Concrètement, si on est un fabricant d'instruments de musique, on n'a pas besoin de fabriquer des instruments accordés à 3, 4, 5 standards différents selon là où on va les vendre, mais un seul diapason. Et ça permet aussi la fabrication en série. Enfin, on est dans cette histoire de l'industrialisation de la fabrication des instruments, et tout ce qui permet de rationaliser la fabrication d'instruments va évidemment dans le sens de ce que les fabricants d'instruments essaient de faire advenir.
Donc, puisque c'est de standardisation dont on parle, alors la question est d'office international, et avec les frictions que ça suppose, puisque Stuttgart aboutit à un La à 440, on ne dit pas encore Hertz, mais c'est quand même déjà l'idée, et 25 ans plus tard, quand on débat de la question à Paris en 1859, pourquoi est-ce que, tout simplement, on n'aurait pas validé ce qui, quoi, était un diapason allemand?
Alors, je ne sais pas s'il est identifié vraiment comme un diapason. Disons que la question de rivalité vraiment nationale, elle émerge peu à peu dans la seconde moitié du 19e siècle.
Donc pas encore.
Pas encore. Je dirais que la question n'est pas forcément encore très politisée, ou en tout cas, on ne voit pas naître des clivages comme on les verra naître plus tard entre des nations qui, comme ça, proposent des standards distincts. Ce qu'on voit plutôt se dessiner, c'est une confrontation entre les scientifiques et les musiciens. Donc la question de la standardisation du diapason, elle a été débattue à des échelles locales depuis le début du 19e siècle, au Conservatoire de Paris et à l'Opéra. Elle a été lancée par des praticiens, notamment par des gens qui se soucient de la santé, leur propre santé de chanteur ou la santé des autres chanteurs. Au Conservatoire, par exemple, on voit très bien qu'on se préoccupe de préserver la voix des élèves qui arrivent, etc. Et l'idée d'une standardisation à une échelle nationale, mais où on voit d'emblée poindre l'idée d'une standardisation internationale, elle est lancée par un physicien en 1855 lors d'une conférence qui est donnée par Jules-Antoine Lissajous devant la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. En revanche, sa proposition est d'aligner la création d'un standard musical sur le système métrique. Donc, par exemple, il propose d'adopter un si de 1000 vibrations. Donc en France, on mesure non pas en hertz, mais en vibrations, et en vibrations simples. Ça veut dire que si on veut aujourd'hui calculer ce que des vibrations simples en France donnent en hertz, il faut diviser par deux. Donc il propose en gros d'adopter un si de 500 hertz.
Ce qui veut dire un la qui n'est pas exactement à 435, qui va être l'aboutissement de la commission de 59. Donc il a perdu, Lissajous.
Il a complètement perdu. Et surtout, les musiciens disent que ça n'a aucun sens de penser musique par rapport au système métrique, parce qu'il faut penser à ce que ça va donner quand on va essayer de produire les différents tons de la gamme.
Cela dit, le 1000 Hz va avoir un certain avenir après, quand même.
Alors, le 1000 Hz, on va retrouver cette question lorsque la standardisation va entrer dans les réseaux de la radiodiffusion.
On en parlera tout à l'heure.
Voilà, oui. Donc c'est plutôt un standard qu'on a utilisé pour que les amateurs puissent connecter leur radio, donc accorder, si on veut, leur radio. Mais à ce moment-là, en tout cas, ce qu'on voit, c'est le positionnement des musiciens qui disent, bon, l'idée de standardiser la musique, pourquoi pas, mais en tout cas, ce sera selon nos propres règles. Et on voit très bien que lors de la commission de 1859, ce sont les compositeurs qui ont l'autorité dans les débats.
Donc, c'est-à-dire des gens comme Berlioz, essentiellement?
Alors, des gens comme Berlioz et en gros, l'Académie des Beaux-Arts, donc ce qui est identifié à l'époque comme l'autorité en matière musicale. L'autorité en matière musicale au milieu du 19e siècle, c'est les compositeurs d'opéra, surtout les compositeurs de grands opéras. Et on voit comme ça le système musical français avec l'opéra à son fait. Et c'est la raison pour laquelle la question du diapason est importante, parce que l'opéra, ça veut dire des chanteurs. Et ça veut dire préserver ce patrimoine culturel national.
1859, c'est l'année à l'opéra de la création de Faust, de Gounod. On pourrait dire que ce Faust de Gounod est le premier ouvrage qui est joué à 435, en tout cas où on aurait vérifié que l'orchestre de l'opéra était bien aligné, sauf qu'il y avait des précédents, déjà une cinquantaine d'années plus tôt, on essayait de normaliser quand même le niveau du diapason de l'opéra de Paris.
Oui, alors 1859, il faudrait faire une histoire, une micro-histoire de l'implémentation de la norme. Pour vérifier
que ça a été si vite, ouais.
Voilà, et on peut imaginer, donc ça c'est une constante dans l'histoire de la standardisation du diapason. Il faut lire les dates comme ça, des décrets, des prises de décision avec pas mal de précautions, parce qu'ensuite...
C'est pas du jour au lendemain.
C'est pas du jour au lendemain qu'on réaccorde tout un orchestre. Et donc, on voit dans les archives de l'Opéra de Paris que c'est plutôt au cours de l'année 1860 qu'on a fait appel à des facteurs d'instruments pour qu'ils réaccordent les instruments de l'opéra, ou pour qu'ils changent le diapason des instruments de l'opéra, ou pour qu'ils procurent de nouveaux instruments à accorder au standard. Alors oui, effectivement... on a un peu l'impression dans toute l'histoire du diapason de voir des échecs successifs. Donc cette décision de 1859, elle fait suite à des dispositions qui ont déjà été prises, donc notamment en 1824 où à l'Opéra de Paris on a tenté d'imposer un diapason plus bas que celui qui était alors en usage. Et puis voilà, quelques décennies plus tard, le problème revient.
Et il y avait même un système de sanctions pécuniaires des musiciens qui rabotaient leurs clarinettes, qui avaient le risque d'être plus aigus, précisément parce que ça devait passer par une coercition, cette mise en place de...
Absolument, parce que les musiciens n'avaient pas forcément intérêt à se conformer à une norme qui n'était pas... En fait, ça c'est aussi une constante dans l'histoire des standards, tant qu'une norme n'est pas adoptée partout, on n'a pas tellement intérêt à l'adopter soi-même, et surtout pour des musiciens dont les carrières se déploient dans plusieurs lieux.
Ça veut dire que ceux qui vont réguler, comme Lissajou ou Berlioz, font aussi attention à ce que le standard qu'ils choisissent soit applicable, soit suffisamment réaliste pour qu'il soit adopté et pour que ça ne serve pas à rien. Vous citez l'historien Gabriel Finkelstein qui parle du Paris du 19e siècle comme d'un Broadway de la performance scientifique. Parce que précisément, si Lissajou a réussi à imposer le débat, c'est qu'il avait rôder une espèce de spectacle, de démonstration à partir des différents diapasons qui pouvaient exister ?
Oui, absolument. Alors ça, c'est un contexte important pour penser à ces questions. Donc, pour nous, aujourd'hui, si on parle de l'acoustique, ça paraît être une science qui se pratique dans des laboratoires qui ne sont pas forcément très ouverts au public. Ce n'est pas forcément une science très accessible. Au début du 19e siècle, et dès 1802, on voit... un acousticien comme Kladni qui vient à Paris faire des démonstrations devant Napoléon subjugué. Et donc, il y a un engouement pour l'acoustique. L'acoustique, c'est...
Kladni, c'est celui qui faisait vibrer des grains de sable avec des fréquences sonores.
J'ai devant moi une plaque métallique carrée fixée par son centre. Je vais faire vibrer cette plaque grâce à cet archet. En vibrant, la plaque fera vibrer l'air et on va entendre un son. Voilà. Je vais maintenant verser sur la plaque du sable très fin et très léger. La plaque en vibrant chassera le sable de la plaque et on verra que ce sable s'accumule à des endroits. Et ces endroits sont justement des endroits où la plaque ne vibre pas. Voilà. Les lignes le long desquelles le sable s'est accumulé sont des endroits où la plaque ne vibre pas. Et de part et d'autre d'une ligne immobile, la plaque vibre en sens opposé. Ce qui veut dire que si toute cette zone de la plaque est en train de monter à un instant, au même instant, de l'autre côté de la ligne, la plaque est en train de descendre, et ainsi de suite. Si maintenant je place l'archet ici, là où aboutit une ligne immobile, évidemment la plaque devra changer puisque je serai moi-même avec l'archet en train de faire vibrer cet endroit de la plaque. Et en posant mes doigts sur la plaque, j'empêche la plaque de vibrer à ces endroits-là.
Et on voit un certain nombre d'expérimentations, d'expériences qui sont comme ça très, très spectaculaires. Et on voit par exemple dans les livres de physique qui sont employés soit dans les facultés, soit dans les lycées à l'époque, que l'acoustique est une sorte de prolégomène à des problèmes physiques plus complexes et qu'elle permet en quelque sorte de... Alors c'est paradoxal hein, parce qu'on parle du son comme quelque... On imagine que le son c'est quelque chose qu'on perçoit plutôt par l'ouïe, mais en fait l'acoustique c'est beaucoup une science qui se déploie de manière visuelle et de manière très spectaculaire. Donc il y a toute une, tout un courant de recherche qui s'efforce de, par exemple, montrer... ce qu'est le phénomène des vibrations et de le démontrer par différents protocoles. Et donc, Lisa Joux s'illustre à partir des années 1855, à la fin des années 1850, en faisant comme ça des démonstrations par lesquelles il va démontrer des phénomènes acoustiques en les donnant à voir à des publics variés.
Alors vous êtes un peu dans un double mouvement, c'est-à-dire à nous montrer d'une part que finalement les questions sonores sont à la mode dans la communauté des sciences de la physique et que ça va être en même temps que ces histoires, un peu ce rapport physicien au son va pouvoir se développer dans les milieux musicaux.
Oui, et donc c'est vrai qu'on est un peu dans ce paradoxe où d'un côté on a des physiciens qui parlent du son comme d'un phénomène visuel, en tout cas visualisable, et puis d'un autre côté on a des musiciens qui eux ont une approche du son qui n'est pas exactement la même, c'est pas forcément... alors d'abord on parle pas forcément du son en termes de vibration, hein, on le voit bien dans les débats du 159, d'un côté les physiciens sont en train de mesurer le nombre de vibrations sonores, les musiciens quant à eux ils parlent en termes de quart de ton, enfin voilà, chacun a ses outils, et puis chacun a son expérience de ce phénomène qu'est le son. Et c'est ça que l'on voit se déployer autour de, finalement, en cherchant à voir comment des gens ont essayé de se mettre d'accord sur ce que pourrait être une fréquence d'accord commune, on voit un peu se déployer la pluralité de la manière dont ils définissent et dont ils expérimentent, dont ils font l'expérience du son.
Parce que d'une certaine façon, vous vous présentez comme une héritière. Vous dites que votre livre Tuning the World prend acte d'un tournant matériel. Ce tournant matériel, vous le désignez comme un acquis, plutôt comme une bonne chose, ce qui me donne envie de vous demander pourquoi est-ce un acquis et pourquoi est-ce une bonne chose ? Ou est-ce que c'est vraiment tant que ça, acquis et bonne chose ?
Alors, le tournant matériel, bon, ça, je pense que c'est disons, dans la musicologie des 10 ou 20 dernières années, et puis dans les sciences humaines et sociales des dernières décennies, c'est un tournant qui est relativement acquis. Enfin, il y a de plus en plus de travaux qui s'intéressent à la manière dont les instruments ont cristallisé des rapports de pouvoir entre différentes communautés, etc., ou à la vie sociale des instruments. Hein. De la même manière que, je disais, l'acoustique, ça semble être une discipline qui n'est pas forcément très accessible. L'organologie, c'est longtemps resté quelque chose qui intéressait surtout les conservateurs de musées, des gens qui avaient vraiment affaire aux instruments dans leur pratique professionnelle. Et puis, de plus en plus, ce sont des questions qui intéressent, il y a une sorte de courant, de tournant technologique dans la musicologie. Alors, est-ce une bonne chose ou est-ce une mauvaise chose ? Je ne sais pas. Je pense que ce qui est intéressant avec le diapason, c'est qu'on voit que enfin, la difficulté qui consiste à naviguer entre les conceptions, disons, immatérielles, idéales du son, et puis des problématiques matérielles. Donc, par exemple, incarner des standards dans une série de technologies, que ce soit des machines qui servent à accorder les instruments eux-mêmes, les corps des musiciens, c'est pas chose facile.
C'est-à-dire que vous parlez assez peu des œuvres et des impacts sur le répertoire?
Oui, alors c'est effectivement un pan qui reste sans doute à explorer, à la fois dans une perspective, disons, de ce qu'on appelle les performance practice, enfin de se demander comment des œuvres ont sonné. Et ça, il y a des musiciens, de plus en plus de musiciens qui s'intéressent à ces questions. Hein. Récemment, Jérémy Rohrer, par exemple, a donné la Traviata de Verdi à 432, qui est un diapason qui a été...
On dit le diapason Verdi, justement, oui.
On dit le diapason Verdi, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en tous les cas, voilà, Verdi l'a momentanément proposé comme un diapason qui serait assez confortable pour les chanteurs. C'est une des raisons pour lesquelles il était intéressé par ce diapason. Mais effectivement, on peut se demander quel impact ça peut avoir sur la composition. Et donc là, bon, on rentre dans des questions qui ont trait à l'imagination sonore des compositeurs, hein, quel est l'impact de la normalisation sur la manière dont les compositeurs se sont représentés eux-mêmes.
Parce que du point de vue de l'imagination esthétique, vous montrez bien que Edward Hanslick, qui est considéré comme par excellence le défenseur de la musique pure, débarrassée de tout argument littéraire, est précisément un fervent défenseur de la normalisation. Et donc il y a peut-être une espèce de solidarité conceptuelle entre la normalisation d'un côté et puis l'appel à une musique pure.
Oui, et alors, bon, là, on retrouve des questions liées, disons, aux angoisses que suscite cette idée d'une montée du diapason. Et donc, ça, il y a toute une critique, justement, au moment où se développe un goût pour la musique instrumentale, au moment où se développe une esthétique du timbre instrumental, une attention portée à la puissance sonore des instruments, à leur couleur, etc. On voit qu'un certain nombre de critiques ou même de compositeurs s'élèvent contre ce qu'ils considèrent être un danger, notamment pour les répertoires plus anciens. On a l'impression, c'est comme si il y avait une sorte de menace de la modernité musicale, mais aussi technologique, que cette modernité ferait peser sur un héritage musical qu'on n'essaierait pas suffisamment de préserver.
Quand on entend Jérémy Rohrer jouer la Traviata, donc en appelant son orchestre à s'accorder sur 432 plutôt que le 440 qui est en vigueur, il nous remet donc dans un climat qui est peut-être celui des Italiens qui, en 1884, vont introduire la contre-norme de ce 432, un peu contre Paris, c'est dans cet esprit-là ?
Alors, un peu contre Paris, disons que c'est un moment où, à partir de 1859, les nations européennes reçoivent en gros la nouvelle du fait que voilà, Paris a créé un diapason normal et puis vont se positionner par rapport à cette norme. Alors certains pays vont s'efforcer de tout faire pour se mettre au diapason de Paris, mmh. Et puis d'autres nations, pas forcément de manière intentionnelle, mais vont ouvrir des débats dans des cercles musiciens, parfois de manière plus démocratique qu'en France. Hein. Par exemple, chez les Anglais, c'est très clair qu'il y a ce souci de ne pas imposer une norme de manière unilatérale, mais plutôt de lancer une sorte de concertation nationale pour savoir ce que les musiciens veulent faire. Et donc, ces processus qui, au départ, sont censés contribuer à une standardisation du diapason à une échelle internationale, c'est parfois la volonté des autorités qui lancent ces débats, trouvent finalement leur conclusion dans l'adoption de normes qui ne sont pas le diapason de Paris. Alors, en Italie, c'est un peu ce qui se passe. Enfin, disons qu'il y a un engouement pour une fréquence qui a été proposée par un acousticien belge, Charles Meyrens, qui effectivement a réagi à l'adoption du la français en disant que c'était vraiment pas une très bonne chose d'avoir proposé la 435, que ça n'avait surtout pas de fondement ni physique ni mathématique et qu'à ce titre, ça ne pourrait pas être un diapason qui durerait très longtemps. Il avait raison parce qu'effectivement, le diapason français a fini par être remplacé par la 440. Alors, pas forcément pour les raisons qu'il avait exposées,
oui, on va y venir,
mais en tout cas...
Oui, aussi par l'internationalisation du débat, oui, oui.
Voilà, et puis, effectivement, les Italiens se sont pris d'affection pour cette fréquence à 432. Verdi en a été le promoteur. Il a ensuite, et c'est important de le dire parce que ça a des impacts aujourd'hui sur la pratique, mais il a dit avant la tenue d'une conférence internationale en 1885 qu'il était plus important pour lui de soutenir un accord international plutôt que de défendre la position italienne envers et contre tout. Donc.
C'est-à-dire que c'était installé dans les consciences, au-delà même de défendre une hauteur de référence plutôt qu'une autre, que quand même il y avait nécessité d'uniformiser parce qu'il en allait... de ce topos romantique de défendre la musique comme un langage universel. C'est ça aussi qui se jouait.
Oui, c'est ça qui se joue. Et ça, c'est intéressant parce qu'on le voit...
C'est dans la bouche de Lissajou. Hein,
C'est dans la bouche de Lissajou. Alors, on peut se demander à quel point c'est un argument... Est-ce que c'est sincère ou est-ce que c'est simplement une manière de flatter un peu les sensibilités de ces
auditeurs. Ah oui, c'est peut-être juste rhétorique, oui.
Voilà, mais en tout cas, on voit cette idée poindre et on la voit formulée de manière sincère, pour le coup, par exemple, par les techniciens de la radio dans l'entre-deux-guerres. Donc, c'est une question qui va devenir assez importante. Effectivement, on se dit, à un moment où les répertoires musicaux deviennent de plus en plus internationaux, donc on a l'impression qu'il y a comme ça la constitution de la musique comme un langage universel. Alors, attention, un langage universel qui est européen.
Très occidental.
Dans le contexte d'une domination occidentale et surtout d'une intensification de la colonisation, des mouvements d'expansion impérialiste, etc. Donc, elle est tout sauf universelle, mais voilà, il y a des discours, disons, universalistes qui entourent la musique. Et on voit apparaître comme un paradoxe le fait qu'au moment où des répertoires musicaux commencent à se diffuser à une échelle internationale, finalement, le manque de... Enfin, l'absence d'un standard d'accord rend très patent le fait que, ben non, la musique n'est pas ce langage universel et que, en fait, chacun joue la musique selon ses propres standards locaux.
On n'a pas dit, mais l'approche anglaise était intéressante, puisque dans les années 1860, il y avait une tendance à introduire le pitch français, donc à 1435, en même temps qu'une espèce d'enquête nationale qui a été menée, qui a abouti à se régler sur un do à 528.
Oui, alors là, on voit poindre un peu tous les problèmes qui se posent quand on essaie de standardiser les fréquences à une échelle internationale. Donc, non seulement on n'est pas forcément d'accord sur la fréquence d'accord, mais aussi on ne parle pas forcément dans les mêmes termes. Et donc ça vient constamment poser des problèmes. Les Anglais ont plutôt pour habitude d'employer le standard des physiciens, hein, donc c'est une ligne de partage entre, à la fois géographique mais aussi disciplinaire. Les physiciens ont plutôt tendance à se référer au do, ou plutôt au si, donc si comme un C, comme standard,
si,
voilà, si. Et effectivement, cette enquête, elle est intéressante. Donc encore une fois, on voit ce positionnement par rapport à la France, c'est-à-dire les nouvelles arrivent en 1859, voilà, une commission française a déterminé cela normal, et immédiatement les Anglais, parce qu'on est aussi dans ce contexte où la culture politique anglaise se définit souvent par opposition à la culture politique française, donc en réaction au régime vraiment autocratique de Napoléon III, les Anglais disent... c'est une bonne idée d'essayer de standardiser le la, mais on ne peut absolument pas procéder de la même manière que les Français l'ont fait. Il faut faire ça de manière beaucoup plus démocratique.
Alors, on va arriver petit à petit à ce la à 440. Vous nous disiez qu'il était beaucoup soutenu par les ingénieurs de la radiodiffusion de l'entre-deux-guerres. Avant, pour arriver et continuer à être chronologique d'en arriver là, peut-être parler de la fin du 19e siècle où il y a une espèce de lissajou américain, on pourrait dire, qui s'appelle Levi Fuller, qui va lui-même se mettre à faire des démonstrations de diapason et à colporter aux États-Unis le même discours, c'est-à-dire un discours de « il faut une norme », sauf que peut-être est-ce que celle des Américains pourrait pas être la même, pour des raisons thermiques surtout ?
Oui, alors l'épisode américain, il est important parce que effectivement, il va, c'est cet épisode-là qui va redéfinir la fréquence d'accord. C'est aussi important dans une perspective contemporaine, hein, puisque aujourd'hui, il y a encore de nombreux débats autour du diapason et notamment des théories du complot qui circulent, qui attribuent le choix de l'A440 aux Allemands et aux nazis, puisque la décision d'adopter cette norme à une échelle européenne, en tout cas, a été prise en 1939. Alors,
c'est vrai que bien avant le nazisme, que le 440 était allemand en 1834 avec Stuttgart.
Voilà, ouais. Il était allemand en 1834 avec Stuttgart. Ensuite, c'est une fréquence qui a beaucoup plu à Hermann von Helmholtz, qui est vraiment la référence dans le monde des recherches acoustiques dans la seconde moitié du 19e siècle. Et donc, c'est plutôt comme ça qu'il faut expliquer son arrivée aux États-Unis.
C'est un diapason scientiste, quand même.
C'est un diapason voilà, scientifique, ou en tout cas nimbé de l'autorité de la science acoustique allemande, mais plutôt de la seconde moitié du 19e siècle. Et effectivement, dans un premier temps, donc souvent, comme souvent dans l'histoire du diapason, tout commence d'abord par l'arrivée d'instruments accordés au diapason français. Donc on voit d'abord à une échelle locale, par exemple à Boston, l'arrivée d'un orgue allemand qui est accordé au la français, et puis donc une sorte de premier épisode de standardisation à une échelle locale. Qui ne prend pas vraiment. Enfin, on voit comme à Paris, vous le rappeliez, ces instrumentistes qui vont faire raboter leurs instruments. On voit dans les archives que les instrumentistes ne sont pas très contents de devoir se conformer à cette fréquence qui les met en difficulté pour aller jouer dans d'autres contextes à Boston. Alors ensuite arrive donc Levi K. Fuller, qui est un facteur d'orgue. Il a vraiment l'idée qu'il faut organiser le marché des instruments et notamment des pianos américains. Alors Fuller essaie d'introduire le diapason français. Donc il met d'accord les fabricants d'instruments, les fabricants de pianos. Il leur fait accepter cette norme et ensuite il s'efforce d'introduire des diapasons. Donc je disais, il y a toujours ce versant matériel hein, de l'histoire de la standardisation qui est très important. Il fait importer de manière massive des diapasons fabriqués en Angleterre, accordés au la français, et il essaie ensuite de faire fabriquer des diapasons aux États-Unis. Et donc ce qui est intéressant avec le cas américain, c'est qu'on voit vraiment tous les problèmes que ça pose, toutes les difficultés qui surgissent quand on essaie de standardiser le la dans un pays dans lequel il n'y a pas encore, comme à Paris, donc on disait, hein, Paris est vraiment un centre pour la fabrication d'instruments acoustiques, pour la production de savoirs acoustiques, etc. Aux États-Unis, ça se met en place dans la seconde moitié du 19e siècle, mais il n'y a pas encore de très grands fabricants.
C'est pas si stabilisé que ça. Il y a un autre problème technique qui illustre un peu ce que Christophe Tarkos, le poète, avait repéré quand il avait réfléchi sur le kilo qu'il fallait nettoyer régulièrement pour qu'il ne dépasse pas le kilo, mais en le nettoyant, il risquait de perdre son poids d'un kilo. Et Fuller, le 31 décembre 1891, reçoit une commande de fourchette, mais dans le voyage, avec l'eau salée, l'humidité du voyage océanique, on se doute que peut-être est-ce que les diapasons en question n'étaient plus exactement à la même hauteur.
Oui, et il déplore le fait que les diapasons sont rouillés, donc il demande que pour la prochaine commande, on les emballe précautionneusement, qu'on les huile, etc. Donc il y a vraiment toute cette infrastructure hein, qui est nécessaire pour standardiser le diapason. C'est des choses qu'on a complètement oubliées, parce qu'évidemment, aujourd'hui, c'est très facile d'avoir accès à une fréquence de référence.
Donc vous avez enquêté sur les archives, enfin vous avez consulté les archives de la Fédération américaine des musiciens. Là, vous pu vérifier qu'en 1902, ladite fédération, sous l'influence de Fuller, se prononce en faveur du diapason français, c'est-à-dire 435. Et il y a un revirement en 1917, donc en pleine Première Guerre mondiale. Et là, il passe à 440.
Oui, alors d'abord, c'est un revirement qui est très malencontreux, enfin en tout cas qui est assez mal reçu par une partie du public, parce que c'est présenté, enfin en tout cas c'est perçu comme l'adoption d'un diapason allemand. Donc comme on le disait, la 440 c'est un diapason qui a été depuis longtemps suggéré en Allemagne. Et c'est le moment où les États-Unis viennent de rentrer en guerre contre l'Allemagne. Donc c'est vraiment, ça paraît un peu à rebours de l'histoire hein, d'aller choisir ce standard allemand.
Oui, c'est complètement contre-intuitif par rapport aux tensions internationales qu'il y avait diplomatiquement, ouais.
Voilà, donc c'est complètement contre-intuitif. Ça vient du travail d'un fabricant de percussions qui a lu les travaux de Helmholtz, ou en tout cas a lu une version vulgarisée peut-être des travaux de Hermann von Helmholtz, et qui a trouvé là l'idée de suggérer la 440 plutôt que la 435. Alors ça justifie...
Il s'appelle Digan, hein. Il avait apparemment de grandes ambitions industrielles, ce monsieur. Ouais.
Il avait de grandes ambitions industrielles et il a effectivement joué un rôle très important dans le monde de la fabrication de percussions. Il réussit à faire adopter une fréquence qui lui paraît mieux adaptée à la fabrication d'instruments avant. Et ce qui est intéressant, c'est que il transpose les débats qui ont eu lieu jusque-là plutôt dans des cercles les cercles de la musique classique, hein, et il vient les amener vers le monde des musiques populaires. Et c'est dans ce contexte qu'il propose d'adopter une fréquence. Alors, il dit que ce n'est pas vraiment un changement de standard, c'est plutôt prendre acte du fait qu'une fois mis en situation, les instruments de musique, et notamment la clarinette, qui est un instrument de musique qui est très important dans ces contextes-là, aurait plutôt tendance à jouer à 440 qu'à 435. Et que donc finalement, son standard, c'est... Enfin, la proposition de ce nouveau standard, c'est un peu prendre acte de la manière dont le diapason français évolue une fois qu'il est exposé sur les scènes du vaudeville américain.
Ce même Digan qui a confectionné des Cathedral Chimes. Fanny Grzebinski, on peut dire que ce Digan avait aussi la volonté d'imposer ses propres produits. Il fait breveter le Digan Ometer en 1916 avec une rhétorique qui rappelle pas mal l'Issajou. Il dit « Les différentes nations n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la question d'un diapason universel. Conscient de cette situation regrettable, nous avons créé un nouvel instrument de mesure du diapason, le Digan Ometer, dont la fonction est de fournir aux musiciens une norme de jeu facilement compréhensible », mais ce qui est vrai et pas vrai, puisque ça dépendait de ce que cet outil se déploie beaucoup, ce qui n'a pas été le cas.
Non, ça n'a pas été le cas. Alors, ce qui est intéressant dans ce diganomètre, c'est qu'on voit, il a un peu la forme d'une... Enfin, c'est un instrument à percussion, donc là encore, on voit la transformation des débats et leur migration vers d'autres cercles musicaux, hein, ceux de, encore une fois, des musiques populaires plutôt que des musiques classiques.
Et des musiques savantes qui portaient essentiellement le débat avant,
oui. Oui, donc ça, c'est un... Disons, ça vient attester de ce glissement dans l'histoire des négociations. Et donc, Digan, on peut dire qu'il l'instrumentalise hein, à des fins commerciales, cette question du diapason pour s'imposer comme une autorité acoustique. Et de la même manière, on pourrait dire que l'Issajou, hein, qui comprend bien que en 1855, se présenter comme le défenseur de la musique, de l'opéra, etc., c'est une manière de rendre audible ses préoccupations scientifiques et de donner de la valeur à ses recherches physiques.
Alors, dans le traité de Versailles de 1919, qui établit les conditions d'une concorde à la sortie de la Première Guerre mondiale, eh bien, on trouve référence au diapason dans l'article 282, section 22, parmi toutes les unifications de systèmes métriques et des formules pharmaceutiques pour les médicaments, eh bien, se trouve une clause spécifiant une nouvelle unité musicale qui est le diapason de concert. Et alors, il est à combien ?
Alors, il s'agit toujours du diapason français.
D'accord, donc c'est celui 435.
Voilà, ouais. Parce que les Européens ne sont pas passés au diapason 440. Et donc, c'est un rappel des accords internationaux qui ont été passés entre les nations européennes. Donc, en l'occurrence, l'accord de 1885, qui avait été passé par plusieurs États allemands et puis plusieurs nations européennes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, le diapason, c'est... Donc, on le disait par exemple au sujet de Hans Lick, hein, on peut imaginer que c'est s'il s'agit de parler de musique, alors c'est quelque chose qu'on va trouver plutôt dans des sources qui ont trait à l'esthétique ou les cultures musicales. Et puis là, on le voit apparaître vraiment dans des sources qui ont trait au commerce international, à l'importation de matières premières. Donc on voit qu'on est dans une forme d'économie politique de la musique, hein, qui nous fait imaginer un peu comment est-ce qu'on peut aussi penser à l'histoire de la musique au-delà des sources qu'on a pu identifier comme étant pertinentes pour cette histoire. Et qu'en fait, l'histoire de la musique, elle se débat et puis elle se documente aussi aujourd'hui dans des sources qui sont très variées et qui ont peut-être, a priori, rien à voir avec la musique.
Et puis arrive la radio et ce son. Ce qu'on entend là, Fanny Grybinski, ça s'appelle le Greenwich Pips, et on l'entend pour la première fois sur les ondes de la BBC en 1924, c'est-à-dire la création de la BBC.
Oui, alors l'idée que la radio va permettre de diffuser des standards de temps, donc en l'occurrence, ça c'est... On comprend que ces nouveaux médias qui vont permettre maintenant de traverser des espaces vont être immédiatement identifiés comme des choses, des technologies, des infrastructures qui permettent la diffusion des standards.
C'est-à-dire c'est grâce à la radio qu'on sait très exactement l'heure qu'il est, on n'a pas encore l'horloge parlante, on peut s'en référer à la radio.
Voilà, jusque dans les foyers. Alors évidemment, il faut regarder attentivement l'histoire de la diffusion des postes de radiodiffusion dans les maisons, etc. Donc il ne faut pas imaginer que parce que la radio diffuse ce standard, que c'est aussi accessible par exemple que l'horloge parlante. Mais en tout cas, voilà, ça devient, il y a une forme de privatisation ou d'entrée de ces standards dans l'espace domestique avec ces nouveaux médias.
Et donc c'est à peu près pour la même raison qu'on va avoir la tonalité du téléphone qui est justement aussi à 440, que l'on a le 440 pour ce Greenwich Pips.
Alors, oui, c'est exactement. Donc, les techniciens de la radio se préoccupent de la question du diapason pour plusieurs raisons. Mais l'une des raisons importantes, c'est qu'ils ont l'impression, et ils ont raison, qu'ils sont peut-être les seuls à pouvoir fournir une solution technique à ces débats qui maintenant se déroulent depuis plusieurs décennies. Et donc, en tout cas, les techniciens de la radio ont conscience que si quelqu'un peut changer la donne en matière de standardisation, c'est eux. Alors, ils n'inventent pas complètement cette idée. Hein. En 1935, aux États-Unis, une station de radio dédiée à la diffusion de standards de temps, notamment, a commencé à diffuser le diapason à 440. Donc on peut dire que les Européens reprennent cette idée et donc reprennent non seulement la norme américaine, mais aussi son incarnation matérielle.
Donc là, à nouveau, on fait rimer universalité avec homogénéité.
Voilà, et alors ça, c'est une des grandes questions, évidemment, que soulève l'histoire de ce standard, c'est que finalement, apparemment, l'idée de standardiser, c'est... Et dans les discours qui, évidemment, essaient de promouvoir cette norme, on la présente souvent comme une manière d'inclure, hein, d'intégrer, de fédérer des espaces et des mondes musicaux différents. En fait, quand on regarde l'histoire des débats et puis quand on réfléchit finalement à ce que ça représente, hein, ce geste d'imposer une fréquence unique pour mettre tout le monde au diapason, finalement, c'est un geste qui a plutôt pour effet de supprimer de transformer, de rendre non pertinente ou obsolète d'autres fréquences, et que finalement, si on essaie d'imaginer ce que pourrait être un diapason universel, c'est peut-être un diapason qui serait mobile, qui serait multiple et qui ne serait pas une fréquence unique et à laquelle on s'efforce de correspondre en toutes circonstances.
Oui, parce que là, dans ces premières années de radio, à la BBC s'impose une espèce d'idéologie qui consiste à dire que ça heurterait le bon goût pour l'auditeur que de faire entendre un orchestre à 440, puis un orchestre à 435, ce serait pas bien, quoi. Au point que le directeur de la BBC, qui se trouve aussi faire le discours d'ouverture de la conférence de Londres en 1939, qui va donc édicter le La à 440 comme la norme internationale, le 11 mai 39, il dit dans son discours d'ouverture: « En ce qui concerne les auditeurs qu'ils écoutent dans la salle de concert ou par le biais de la radiodiffusion, aucune comparaison réelle sur le plan de la brillance de deux interprétations différentes de la même symphonie par différents chefs d'orchestre n'est possible, à moins que les deux interprétations n'aient été faites à la même hauteur de son. » Donc son argument, c'est de dire « il faut qu'on diffuse des orchestres qui sont tous à 440 pour pouvoir avoir le loisir de les comparer à égalité. »
Oui, et d'ailleurs, c'est intéressant cette idée que le rôle de l'auditeur, c'est de comparer les mérites respectifs des interprétations. Hein.
C'est un juge.
Voilà, c'est un juge, et on est dans une sorte de marché concurrentiel, hein, où on doit pouvoir donc se démarquer, mais en tout cas pas par l'adoption de diapasons différents. Alors, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'essaient de faire les techniciens de la radio, c'est de créer un espace musical intégré, c'est de donner l'impression aux auditeurs qu'ils appartiennent à une communauté transnationale. Hein, il y a beaucoup de programmes de coopération entre les radios pour échanger des enregistrements, des répertoires, créer comme ça cet espace partagé. Donc, on peut le voir comme une sorte de construction européenne, hein, par les infrastructures, et d'ailleurs c'est ce que certains historiens des technologies et des infrastructures ont voulu montrer, c'est que l'Union européenne, elle s'est construite d'abord par ces projets d'infrastructures. Donc on est toujours dans cette dialectique entre unification et diversification. En l'occurrence, l'unification des répertoires, des expériences radiophoniques, rendant possible l'identification de cette diversité des fréquences d'accords.
Alors, il y avait quand même une conscience des responsables de la BBC que c'était des débats qui pouvaient échapper aux auditeurs. Et en 1947, on organise une émission qui s'appelle Can We Have a He? Donc, est-ce qu'on peut avoir un là? Qui essaye de débrouiller le débat, en fait, de justifier le choix si massif du 440. Sauf que cette tentative pédagogique vire à un débat très bruiteux où la variété des positions est finalement très importante et peut-être plus qu'ils ne le voulaient.
Oui, absolument. Alors, donc ça, c'est une émission qui est intéressante parce qu'elle atteste d'abord de la nécessité de rendre ce standard audible. Et ça, c'est un peu un paradoxe dans l'histoire des standards scientifiques et techniques, puisque on a plutôt ce que les historiens des standards scientifiques et techniques ont montré, c'est que finalement, les standards ne deviennent efficaces, ne deviennent non du succès qu'à partir du moment où on les oublie. Donc, il y aurait une correspondance entre triomphe de la standardisation et invisibilisation. Et c'est-à-dire aussi, à partir du moment où les standards ne sont plus discutés, où ils sont plus controversés, c'est là qu'ils peuvent devenir des standards. Alors, dans le domaine de la musique, ça ne se passe pas vraiment comme ça, puisque le standard, notre diapason de concert, c'est un standard qui n'est pas produit hors des corps et des pratiques musiciennes. Hein. C'est un standard qui est toujours produit par les praticiens de la musique, et donc ce dont les promoteurs d'un standard se rendent compte au cours de ces débats, c'est que un des passages obligés pour qui veut imposer un standard, c'est de convaincre les communautés de musiciens de l'adopter. Alors, la réponse de la BBC face à ça, c'est donc de développer ce programme pédagogique qui est censé au moment où on introduit la fréquence comme un point de repère sur les ondes de la BBC, on se dit mais c'est pas suffisant parce que les gens ne vont pas remarquer qu'il s'agit du diapason standard, donc il faut leur expliquer ce qu'est cette norme. Et puis effectivement, comme il convoque une pluralité de, notamment de praticiens de la musique qui viennent un peu représenter les différentes factions de l'orchestre, on voit finalement ce débat, ça leur permet d'exprimer leurs positions qui sont très divergentes face à cette norme et les conflits que ça génère au sein de l'orchestre.
Pour terminer, peut-être quelques mots sur Robert Dussault qui, en 1950, se lance dans une croisade contre le 440. Alors, il utilise les arguments qui sont repris par certaines théories du complot contemporaines, à savoir que le 440 serait un diapason, si ce n'est seulement nazi aussi, installé avec la complicité de l'industrie musicale américaine. Mais il dit ça avec plus ou moins de sincérité, juste pour flatter le patriotisme, parce que lui, il a vraiment la ferme croyance que le 432... a le mérite d'être un nombre pythagoricien, ce qui est vrai.
Alors, ce qu'on peut faire dire à Pythagore, un peu ce qu'on veut...
Surtout Pythagore n'avait pas les instruments de mesure pour savoir le nombre de vibrations secondes, a priori.
Moi, j'en ai parlé avec des acousticiens d'aujourd'hui. Disons, ils ont tendance à dire, bon, c'était pas une proposition qui avait été prise très au sérieux par les cercles scientifiques, donc... ça leur paraît pas forcément très important, ça n'a pas forcément eu un impact vraiment réel sur les négociations, mais en tout cas, ce que ça permet de mesurer, c'est la distance entre le monde des négociations de la moitié du 19e siècle auquel Dussault se réfère, parce qu'en fait, ce qu'il essaie de faire, c'est de rejouer ce qui s'est passé en 1859.
Donc, il se prend pour Lissajou un peu, sauf
qu'il
cherche une autre norme, mais avec la même posture. D'ailleurs, il va à l'Académie des sciences, il se donne les mêmes interlocuteurs.
Exactement.
Et il arrive à les convaincre.
Absolument. Donc, il arrive à convaincre l'Académie des sciences, il arrive à mobiliser l'Académie des beaux-arts, il arrive à mobiliser le gouvernement français. La raison pour laquelle j'ai choisi d'évoquer cet épisode dans le dernier chapitre du livre, c'est un peu pour faire un retour sur le premier chapitre et montrer comment les choses ont changé. Et qu'effectivement, en 1950, on ne négocie plus le diapason comme on le faisait en 1859. Donc, il n'est pas possible de revenir en arrière comme Dussault essaie de le faire. Il se fait le promoteur de la 432, qui est un diapason qui a de plus en plus de succès aujourd'hui dans différentes cultures musicales. Et donc, ça me paraissait aussi un peu important de passer un peu de temps avec ce standard pour montrer l'espèce de vision utopique qui s'articule autour de ce standard. Donc, il nous permettrait de retourner à Pythagore. Donc, il y a vraiment cette idée qu'on retourne aux sources de la théorie musicale dans une forme de pureté de ce que doit être la théorie de la musique. Et effectivement, dans un contexte politique qui est compliqué, donc la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la mobilisation de ces arguments, anti-allemands, et puis aussi l'apparition d'une rhétorique raciste, alors pas chez Dussault, mais chez l'un de ses proches, Duménil, qui se fait l'écho de sa proposition et qui, par exemple, pointe l'influence néfaste des trompettistes de jazz noir américain. Et on voit, donc je le disais, l'opposition entre ce conservatisme musical, l'idée qu'il faut protéger la musique du passé.
Alors qu'aujourd'hui, l'autotune est à 440.
Alors aujourd'hui... Absolument. Et alors, ce qui est intéressant il y aurait sans doute une poursuite de cette histoire qu'on pourrait écrire, qui est une histoire un peu plus par les technologies, un peu plus silencieuse, où effectivement, je le disais, on voit finalement apparaître dans l'histoire du diapason ce qu'on a vu dans l'histoire d'autres standards, c'est-à-dire une diffusion un peu à bas bruit de la 440, une fois que finalement les praticiens de la musique ne sont plus forcément ceux qui sont en charge de produire la fréquence, ou en tout cas on peut imaginer que si on a un diapason électronique qui est indexé sur la 440, si on est un instrumentiste, on ne se pose plus trop de questions. C'est cette fréquence qu'on va adopter. Et puis surtout dans les nouvelles technologies, donc les pratiques musicales qui se servent beaucoup des ordinateurs, etc., on voit là l'arrivée d'un paradoxe, c'est-à-dire que on a finalement toute liberté d'adopter n'importe quelle fréquence. Hein, aujourd'hui, il est techniquement très facile hein, de produire n'importe quelle fréquence dans le monde des musiques électroniques. Mais finalement, c'est des lieux dans lesquels la question de l'accord est assez peu débattue. Alors, on voit apparaître des voix un peu discordantes qui s'emparent de ces questions, qui appellent à une décolonisation notamment de la musique. Hein, non seulement abandonner la 440, mais aussi s'éloigner du tempérament égal, aller vers d'autres
gammes. Il existe hein, des petits plugins comme Reatune, par exemple, qui permettent de tuner en mixolydien, par exemple, ou dans des modes comme ça. Ouais.
Voilà, exactement. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment est mobilisé un savoir sur la musique et sur les musiques hein, qui est né en partie de ces négociations, donc un savoir à la fois historique et géographique sur la diversité de l'accord. Et donc, c'est vraiment une des tensions qui structure le livre, l'idée que, voilà, en uniformisant, on a aussi cherché à documenter